100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max.
As good as we are in hockey, Montreal is a baseball city.
Our fans were always there cheering.
Baseball was everyday life.
The Expos in 94 were the best team in baseball.
It was completely wild in Montreal.
Good night!
The biggest party you've ever been to? Like that.
We never would have thought we could potentially lose our team here.
Why? Why is that team gone? I heard things, but I don't know what's real and what's not real.
Ça, c'est la voix de Larry Walker que vous avez entendu. Je me souviens de soirée au stade avec mon père pour aller voir Rondell White, Marquise Grissom, Delino DeShield, la crème des expos, la crème du baseball majeur à un certain moment donné. Puis tu sais, on a une bonne idée de ce qui a mené globalement là, dans ce que le public sait, de ce qui a mené au déménagement à Washington, ouais. Mais il y a des raisons en arrière de ça. Moi, je considère ce documentaire-là comme un genre de true crime sportif. J'ai vraiment, mais vraiment très hâte de l'écouter. Il a été présenté hier en avant-première, Qui a tué les expos de Montréal au Festival du Nouveau Cinéma. Et c'est coproduit par Netflix et Attraction. Et elle est directrice des documentaires chez Attraction Média. C'est Sophie Charest qui est avec nous. Bonjour Sophie!
Salut!
Quel beau mandat, quelle belle mission que d'en faire justement une enquête à savoir qu'est-ce qui a mené à la fin des Expos Montréal.
100% d'accord avec toi. Il y a 2 ans, on a eu un go pour le développement de cette histoire-là, qu'elle ait éventuellement devenir ce film-là, notre premier film documentaire sur Netflix, sur les Expos, après 2 ans de travail acharné, de recherche, d'entrevue, de tournage, de montage. On a finalement accouché de ce film-là et je suis très heureuse que tu en parles un peu comme d'un true crime parce qu'effectivement, on a quand même été bien inspirés par les codes du true crime pour raconter cette histoire-là.
Mais c'est vraiment comme ça que je le vois parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui, des années et des années plus tard, le vivent encore comme un grand sentiment d'injustice, comme un crime non résolu. Il y a encore des gens qui utilisent les mots « on s'est fait voler notre équipe ». Tu sais, il y a un peu ça, j'imagine, dans « on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui a mené à ça ». Tant qu'on n'aura pas... Tu sais, c'est gros, là, mais tant qu'on n'a pas trouvé le corps, là, t'as de la misère maintenant à faire le deuil, on dirait.
Absolument. Puis c'est vrai que je pense que c'est une des choses qui, en tout cas moi personnellement, m'a peut-être un peu plus surprise dans la production de ce film-là, de ressentir autant d'émotions encore intenses. Ça, on peut se demander, mais pourquoi autant d'années plus tard, on touche encore à quelque chose et on fait, les gens ressentent encore toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Et effectivement, le sentiment de trahison, de s'être fait voler quelque chose, ça revenait quand même souvent. Mais moi, j'avais aussi cette idée aussi d'être plus prudente aussi et de pas non plus tomber dans c'est la faute des autres.
Ouais.
Il faut aussi prendre ce moment-là pour se regarder dans le miroir, regarder notre rôle dans la fin et
ah
dans
oui.
le départ de cette équipe-là. Et je trouvais ça important parce que ça aurait été quand même assez facile de blâmer les autres et de dire qu'ici, au Québec, on avait tout fait, alors qu'effectivement, là, la plupart des gens savent que il y a des gens ici qui auraient probablement pu faire plus. Alors, est-ce qu'on s'est fait voler notre équipe? Est-ce qu'on l'a donné? Est-ce qu'on l'a protégé assez?
Ouais.
C'était des questions que je trouvais importantes à poser.
Il y a plein de visages que les gens aiment qu'on va voir là-dedans. Vladimir Guerrero, Larry Walker, Felipe Alou, Pedro Martinez. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez approchés qui vous ont dit non?
Quelques-uns. Du côté des joueurs, souvent, si on a eu des refus, ce n'était pas par manque d'intérêt,
okay.
Mais plutôt à cause de circonstances là, compliquées. Je pense à Warren Cromarty, qui vit au Japon ouais. maintenant, avec qui j'avais communiqué et qui, malheureusement, il ne pouvait pas se retrouver au
oui.
Québec ou à un autre endroit dans le monde où on aurait pu aller faire une entrevue avec lui. On a communiqué aussi à plusieurs reprises avec Tim Raines, qui était quand même une grande vedette de l'équipe à l'époque là, de Gary Carter et d'André Dawson. Et M. Raines, c'est ça, il a des problèmes de santé. C'est difficile pour lui de se déplacer en avion.
Ouais.
Et pour nous, ça finit par être plus compliqué d'aller faire une entrevue avec lui, nous-mêmes, dans sa ville. Donc, fait que c'est ce genre de circonstances-là qui ont fait que certains joueurs n'ont pas pu participer. Mais évidemment, au final, comme on avait quand même un film d'une heure et demie à faire, il a aussi fallu faire des choix.
Ben oui, c'est sûr.
Et on a présenté, les personnes qu'on a présentées qui ont accepté, je pense que ça fait quand même bien le travail.
Et vous avez réussi à parler à David Sampson, qui évidemment est, disons, un des suspects là, dans ce meurtre et mystère des expos. Comment ça a été, ça? Est-ce qu'il savait dans quoi il s'embarquait? Est-ce qu'il savait que, tu sais, les questions allaient être assez corsées à son endroit? Puis comment est-ce que ça s'est déroulé, tout ce processus-là avec lui?
Ben j'ai contacté David Sampson quand même rapidement au début du processus quand on était en production. Rapidement sa réaction, mais en fait pour solliciter une pré-entrevue avec lui qu'on a faite en Zoom. Donc je l'ai contacté et il m'a répondu oui rapidement. Donc évidemment on n'était pas à l'étape de l'entrevue filmée, mais rapidement on a discuté ensemble, on a eu une discussion très franche qui a duré au moins une heure. Écoute, c'est sûr que moi, j'avais vu, évidemment, je l'avais entendu dans les archives, etc., alors qu'il était beaucoup plus jeune, mais c'est sûr que de la seconde où j'ai commencé cette conversation-là, cette entrevue-là avec David Sampson, je savais que ça allait être une entrevue épique, que je savais que c'était une personne qu'on, évidemment, pour des raisons évidentes qu'on voulait dans le documentaire, mais aussi parce que sa façon de s'exprimer, son énergie en entrevue, c'était vraiment du bonbon pour nous. Et quand nous sommes allés le rencontrer dans les Hamptons, dans sa résidence d'été à Long Island, ça n'a pas été compliqué parce que cette personne-là nous a dit « Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. » Alors, évidemment que c'est le rêve pour tout documentariste,
ben
pour toute personne qui aime raconter une histoire, de se faire dire ça. Est-ce qu'il a voulu peut-être parfois contrôler le message? Est-ce qu'il a été 100% honnête? Difficile à dire.
Ouais.
Mais il s'est donné au max et nous, on ne s'est pas retenu sur aucune des questions.
Pour Claude Brochu, il était à la tête des expos à ce moment-là. L'ancien président, copropriétaire aussi, a été blâmé dans tout ça. Est-ce que pour lui, ça représente une belle façon de livrer sa version des faits puis de le faire plusieurs années après à tête reposée?
Je pense que oui, et il ne faut pas non plus oublier que M. Brochu a quand même livré sa version des faits peu de temps après son départ des expos dans un livre qu'il a écrit où il écorchait quand même plusieurs personnes.
Ouais.
Maintenant, depuis ce temps-là, il y a des personnes qui sont décédées, il y a des gens avec qui il travaillait qui ne sont plus ici aujourd'hui. M. Brochu a quand même s'est assis avec beaucoup de générosité devant nos caméras, répondu à nos questions pendant plusieurs heures. Je pense qu'on a fait un portrait de son rôle ou de son rôle dans l'équipe et aussi dans le départ, son rôle présumé à tout le moins, de façon assez, je pense, assez juste, assez fair. Mais évidemment, quand tu regardes aussi le film, certainement que ça a pu lui remettre aussi des mauvais souvenirs devant les yeux parce que, bon, il a quand même été... Il a été écorché quand même beaucoup dans les médias, etc. On l'a beaucoup critiqué. Donc, mais je pense qu'il s'est fait quand même une carapace, M. Brochu.
C'est comment travailler avec l'immense machine de Netflix?
Ça a été assez extraordinaire. Et écoute, c'est sûr que grosse compagnie, grosse machine, plus de monde, c'est certain.
Ouais.
Des gens de partout dans le monde aussi avec qui on a travaillé. Nous, on est des francophones, fait qu'on a travaillé quand même avec des répondants francophones, mais éventuellement aussi avec nos partenaires de Netflix, Toronto, à qui aussi on travaillait en anglais, où on recevait des commentaires en anglais. Je veux dire, on avait aussi ce petit ajustement-là à faire. Mais on a quand même eu, on a été placé dans des circonstances vraiment super, au sens où on a eu du temps pour faire ce film-là. Et le temps, c'est le nerf de la guerre en production. Quand tu as plus de temps, tu peux pousser ton scénario plus loin, tu peux pousser ton montage plus loin, tu peux pousser ta réflexion, tu peux poser plus de questions, tu peux raffiner plus de choses, tu peux avoir le temps de bien faire les choses. Ils ont été quand même des partenaires très, très compréhensifs et très généreux parce que c'est sûr qu'il fallait aussi trouver la recette de ce film-là. Ouais. Il fallait la raconter avec la couleur québécoise. Et ils nous ont quand même, moi je le prends comme vraiment un signe de confiance parce que ils nous ont poussé vraiment beaucoup, ils nous ont challengé énormément. Parfois tu dis bon, ok, là me semble qu'elle est bonne cette version là, on pourrait la garder. Non, on continue quand même de faire des ajustements, mais au final, force est de constater que bien des fois ils avaient totalement raison et de faire les commentaires qu'ils ont fait, parce qu'aussi faut pas oublier. Le film est un pour un public québécois qui va apprécier l'équipe qui la connaît, mais aussi pour un public international qui ne connaît rien de cette histoire-là, peut-être, ou qui ne connaît même rien au baseball, ou qui ne sait même pas où est le Québec sur la carte. Donc, il fallait aussi avoir ça en tête là, pendant la production.
C'est quand même fou de penser que dans 190 pays, ça se peut que ton menu Netflix te propose à surveiller cette semaine dès le 21 octobre ou Kill the Expose. Je trouve ça exceptionnel.
C'est déjà fait. La bande-annonce est disponible sur la plateforme.
C'est vraiment très cool. Puis le 21 octobre, ce sera rendu disponible. Sophie Charest de chez Attraction. Merci beaucoup de ton temps ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Salut, bonne journée. 21 Salut, octobre papa. Sur Netflix, je sais très bien ce qu'on va regarder à la maison. J'ai bien hâte de voir ça.
Ah, c'est sûr. Puis tu sais, pour quelqu'un comme moi, j'étais très jeune. J'avais 3 ans quand les expos ont déménagé. Donc évidemment, j'ai pas de souvenir d'eux. Mais de voir ce documentaire-là, ça va être vraiment le fun. Puis je pense que tout le monde aura une approche différente à ça. Toi, t'es déjà allé les voir et souvent. Tout ça, t'as vécu toute la saga qui a mené au déménagement. Mais pour des gens plus vieux...
J'ai lancé des O'Henry sur le terrain, moi.
C'est vrai?
Ah oui.
Pourquoi?
Henry Rodriguez.
Ah!
Henry Rodriguez, quand il frappait un circuit, on lançait des O'Henry sur le terrain.
C'est dommage cool, ça.
Hey, on va aller à la pause. De l'autre côté, tu vas nous étaler ton grand savoir avec le « je sais pas pourquoi je sais ça », mais...
T'as un scoop.
J'ai une information sur les chandails dans la Ligue nationale de hockey pour l'an prochain. Les amateurs de jersey, là, qui s'achètent des jerseys, les Greg Langto de ce monde, là, vous allez capoter dans 2 minutes.